Cette semaine dans le balado, on passe une dure soirée, on piste un tueur d'enfants et on câline un panda. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Merlot et Jean-François Breton. Salut Jeff!
Salut, salut! Et si le tueur d'enfants était un panda?
Ou si le tueur est un tueur de panda?
Ouh.
Ça pourrait être intéressant comme film. Cette semaine, on tire dans plusieurs directions. On a une espèce de contre-programmation Pascal.
Ouais, les grosses semaines d'avril.
Ouais, donc pour faire...
Pas beaucoup de films catholiques, là, à part le dessin animé d'Angel Studio qui est sorti la semaine passée.
Mais aux États-Unis, puis peut-être dans le Canada anglais, t'as l'espèce de saga de Chosen.
Oui, ouais, qui est tout le mois d'avril.
Oui, c'est ça. Ouais. Justement, on offre quelque chose de différent. Et puis, il y a aussi un Overlord de cuteness sur les écrans. On vous
Overlord,
en parle.
Overlord, oh,
ouais. Ouais, Overlord, Overload, un Overload.
OK.
Ouais, je voulais pas faire un lien avec Minecraft.
Ben, Minecraft ou, je voulais dire, ben, le mot Lord. Overlord, c'est pas...
Ah ouais. Non, je disais bien...
Sur-seigneur.
Un surplus de comment on dirait ça? De cuteness, de... En tout cas, bref, on y reviendra.
Ouais, incapable de traduire cuteness, là, de mignonnerie.
Ouais, voilà, de mignonnerie, c'est très bien dit. Allons-y pour les nouvelles de la semaine. Toi, avais-tu recensé quelque chose qui avait attiré ton attention?
Oui, je voudrais qu'on parle un petit peu de Anémon et son prochain film qui était auparavant annoncé comme Adam, mais c'était un titre de travail, et qui s'appelle maintenant Amour Apocalypse, qui est un nom, un titre un peu singulier, là, je ne suis pas certain, mais après j'ai lu la description plus exacte, et c'est un film québécois-canadien, mais grande partie anglophone, le personnage principal joué par Patrick Yvon. Est un mi-quarantenaire, comme à peu près dans la vraie vie. Puis à un moment donné, il appelle pour un bris pour sa lampe de luminothérapie et il tombe vraiment en amour avec la voix de la personne du soutien technique qui est jouée par l'américaine Piper Perabo. Américaine ou canadienne? Américaine.
Oui, américaine.
Américaine, c'est ça. Avec, célèbre pour son rôle dans Coyote Ugly il y a de cela 25 ans. Puis il y a d'autres comédiens québécois autour de ça, sauf qu'on dit dans le synopsis que là, son amour va comme déchaîner quasiment cet amour-là, trop fort, l'apocalypse, les pneus de voiture qui crevent, des incendies, des choses comme ça.
Fait qu'il y a un côté fantaisiste.
Je pense qu'il y a un chaos autour de ça qui se crée. Sixième film de Anémon et à mes brèves recherches, première présence à Cannes pour elle. On a annoncé la compétition officielle, mais en fait, elle va être en compétition, mais dans la quinzaine des cinéastes, qui est aussi un très, très beau
panel et tout.
Sauf erreur, c'est là-dedans que Xavier Dolan avait commencé avec « J'ai tué ma mère » et tout. Fait que bravo pour aller au mois de mai pour ça. Le film, lui, sortira au Québec le 8 août. Et il n'y a pas de bande-annonce encore. Là. Ça viendra, j'imagine, dans les prochaines semaines.
Donc, nous, on avait vu on a vu la bande-annonce.
C'était-tu la bande-annonce? C'était juste un extrait. C'était juste un extrait, il me semble.
Mais
on voyait Éric Caboulian aussi, qui est au générique comme comédien.
Mais j'avoue que moi, j'ai bien hâte. Honnêtement, ça avait l'air intéressant. Puis, je suis un grand fan de Patrick Yvon.
De cette espèce de...
De jeu nerveux.
Oui, c'est ça. Ouais, toujours un peu mal à l'aise avec une voix très... corde vocale, là, un peu, là. Oui, puis il joue un propriétaire de chenil, je pense. Puis là, l'apocalypse fait aussi que tous les chiens se sauvent, etc. Fait que, à voir. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, on a des nouvelles pour le nouveau Jesse Eisenberg, qui a connu un très beau succès avec Real Pain. Alors, on change complètement de registre.
Mais là, le nouveau Eisenberg, c'est qu'il va réaliser...
C'est ça. Donc, cette fois-ci, qui est déjà en production, le tournage s'est déjà amorcé, sera produit par A24.
OK, il n'est plus avec Searchlight.
Non, donc retour aux sources, parce que son premier film, c'était avec A24 aussi. Toujours produit par Emma Stone, qui se garnit vraiment un portfolio assez intéressant comme productrice. Et ça va se dérouler dans le monde du théâtre communautaire, une comédie musicale dont Eisenberg a co-écrit chansons et musique pour le film, avec une distribution assez intéressante. Donc, on retrouve Halle Bailey, qui était la petite sirène. Ça, je suis content d'avoir parce que je l'avais vraiment aimé. Une de mes préférées des dernières années, qu'on ne voit pas souvent encore, Havana Rose Liu, qui était dans Bottoms et le film d'horreur sur l'intelligence artificielle.
Je pense que c'était il n'y a pas si longtemps.
Ouais, je pense qu'il y a un an. parce que c'était après Bottoms. Bernadette Peters, une vétéran des années 70-80, a fait beaucoup de Broadway, quelques films. Julianne Moore et Paul Giamatti, donc même aussi de gros noms solides. Alors, à découvrir, j'imagine, quelque part, peut-être 2026, mais je ne serais pas étonné peut-être que ça sort, tu sais...
Fin 25,
là, peut-être.
Mais là, ils sont en tournage?
Ils sont en tournage, fait que...
Ouais, peut-être. Peut-être plus début 26. Ça dépend aussi des... c'est le genre de film que tu envoies quand même dans des festivals ou des choses comme ça. Là, avec sa feuille de route, fait que...
Ça va être à suivre.
Ouais, je pense qu'il sera un petit peu à course là, pour 25. Ça va être plus en 26 qu'on va mettre ça de l'avant.
On verra bien.
Et je voulais revenir sur un petit phénomène qu'on n'a pas recouvert, mais c'est quand même Minecraft qui avait eu un premier week-end au-delà des attentes. Puis quand on regardait avec des collègues, on a analysé puis t'sais, les pronostics de la sortie, 3 semaines avant la sortie. Parce que comme c'est un phénomène de jeux vidéo, mais les adaptations de films en jeux vidéo, de jeux vidéo en film, pardon, sont vraiment pas toujours des succès. Fait que 3 semaines avant la sortie, je pense que le pronostic était à peu près 50 millions pour le week-end. 2 semaines avant, il était monté à 80. Puis juste avant la sortie, il était comme ben, peut-être plus un 100, 110. Puis non, il a fait comme 160 à peu près. Ce qui était plus que Mario. Mais Mario était quand même sorti un mercredi. Okay. Là, il y avait un genre de 5 jours. Mais si tu comptais pas le 5 jours, mais juste vraiment le week-end, etc. Là. Fait que c'était un peu de la triche, je pense, parce que si Mario était pas sorti 2 jours avant puis qu'il avait été sur le week-end, je pense qu'il aurait fait plus. Il faut un peu compter les 5 jours, je pense. Puis là, je suis plus certain. Là, peut-être que ça donnait à peu près la même chose. Puis là, après 14 jours...
Il faut quand même souligner que c'est un gros phénomène.
Ah ouais, c'est ça. Exact. Puis on le compare beaucoup avec Mario parce que c'est une autre franchise de jeu. C'est sorti il y a 2 ans. Ça a été un gros phénomène. Fait que je pense que pour...
Très familial, multigénérationnel.
C'est ça. Puis on va essayer beaucoup, je pense, de sortir ce genre de film-là début avril puis de couvrir une espèce de période un peu plus morose, plus le week-end de Pâques qui n'est pas toujours la même date. Là. Fait que... ben en fait, c'est pour ça que je pense que Mario était sorti à Pâques. Mm-hmm. Pour ceux qui avaient pris l'affiche le mercredi, qui était donc cette année-là, Pâques était début avril. Fait que là, bref, après 14 jours, on est rendu... les chiffres du jeudi sont pas sortis, mais c'est assez facile de les estimer. Là, fait que le film a dépassé 300 millions aux États-Unis et Canada, et maintenant 575 mondialement. Fait que ce film-là va être milliardaire, assurément.
Tout à fait.
Par contre, je crois qu'il fera pas autant que Mario, parce que déjà, après l'équivalent du jour, il y a un certain retard là, par rapport à ce que Mario accomplissait. Puis, tu sais, je sais pas, là, il y a moins le côté peut-être... Tu sais, un côté familial, mais peut-être moins jeune-jeune, contrairement à un dessin animé. Mm-hmm. Là, il y a aussi l'espèce de phénomène du chicken jockey. Puis là, ben, peut-être que vous en avez tous déjà entendu parler 1000 fois, là, parce que c'est ces réseaux sociaux et tout. Il y a certaines projections que ça brasse en tabarouette, là, parce que comme le film... La bande-annonce, et le jeu est un phénomène. La bande-annonce a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux pour les bonnes ou mauvaises raisons. Fait que là, les gens ont appris des répliques par cœur. Fait que là, finalement, c'est que tu vas au film pour voir ce que tu connais, pour être le plus excité possible. Fait qu'on peut voir des vidéos de gens qui lancent du popcorn puis qui crient partout sur certains trucs. Là, un moment où il y a un petit zombie ado de poulet là, qui doit combattre, là, qui est quelque chose qui arrive dans le jeu, mais super rare, là, comme un Easter egg, il paraît que blablabla. Fait que, bref, c'est pas toutes les projections qui sont comme ça, mais il y en a qui sont quand même coco dingo, puis là, les cinémas doivent agir.
Ben, oui.
Mais ça rappelle un peu les... d'un certain point de vue, les Rocky Horror Picture Show, puis tu sais, des espèces de screening interactifs. J'entendais parler aussi de la comparaison avec le cinéma indien qui est très enclin à chanter, puis à taper dans nos mains, puis être comme si c'était un spectacle devant nous. C'est juste, je pense qu'il y a une différence. Ou même la belle époque, l'âge d'or des Marvel et tout, les gens applaudissaient, étaient contents quand ils voyaient les héros puis des répliques ou même...
Mais ça, se réagir comme ça, c'est le fun, mais de faire du grabuge...
Ouais, c'est ça. C'est que je veux dire, lancer son popcorn, ouvrir son cellulaire, puis se filmer, puis courir devant l'écran, ça perturbe la projection. T'sais.
Vraiment.
Fait que si vous y allez avec des jeunes enfants, ben, visez peut-être les projections tôt en journée, les premières l'après-midi plutôt que le 19h, parce que ça se peut que ça va.
En même temps, les cinémas doivent tellement être aux aguets, puis d'avoir aucune une tolérance zéro là, dès qu'il y a quelque chose qui se passe.
Ben, je pense que la tolérance ou l'intolérance là, va au moment où c'est ça perturbe les c'est autres. Ça. Les gens se lèvent, lancent des objets, des affaires. Surtout que le cinéma, ça roule pas sur l'or. Là. C'est beaucoup, ça coûte cher à entretenir. Puis les projecteurs, la toile, les affaires. Mmh. Fait que quand les gens brisent, lancent les choses, brisent les fauteuils, ça, c'est inacceptable.
Ben, oui,
tout à fait. Du vandalisme, finalement. Ouais. Fait que là, ils sont... les gens vont assurément se faire évincer, mais quand c'est juste de l'enthousiasme, mettons, puis je sais pas comment dire, crier ou parler fort,
ben ça, c'est fun,
peuvent tolérer. Tu peux pas, dès que quelqu'un parle un peu, les sortir. Là.
C'est non,
pas,
non, ben non. Puis tu sais, moi, écoute, là, tu parles de des gens qui applaudissent, puis qui crient, puis tout ça. Je pense que la dernière fois que j'ai vu que ça, c'était avec le dernier Spider-Man.
Uh-huh.
Mais c'est le fun de vivre ça, puis je trouve qu'on le voit de moins en moins. Je me rappelle une époque ado où, peut-être parce que c'était le premier soir souvent que j'y allais, mais écoute, ça réagissait beaucoup, là, puis ça applaudissait, puis j'ai des bons souvenirs de ça, mais on dirait que depuis 10-15 ans, on dirait que le public réagit moins. C'est peut-être à Québec aussi, j'étais dans l'Outaouais, je sais pas, je sais pas à Montréal comment c'est.
Mais... Tu sais, ce qui aide aussi au phénomène Minecraft, c'est que les salles sont pleines aussi,
ben ouais.
Comme tu dis. Fait que je me souviens de la fois qu'on avait vu le Spider-Man, la salle était bondée aussi, ouais. juste avant que la pandémie referme puis tout. Et quand là, c'était celui où il y avait les Tobey Maguire, puis...
Garfield
qui était en rumeur, mais on n'était pas sûr. Fait que là, quand on les voyait, aïe, ouais. Tout le monde était vraiment content. Puis Matt Murdock, puis toutes ces affaires-là. Mais je pense qu'après ça, il y a des bons films d'horreur. Mais tu sais, mettons le Monkey là, qui était là récemment. Ben, je pense que c'est un bon film que les gens auraient pu réagir parce que d'un moment la tête de quelqu'un explose en surprise. Puis oh my god, tu sais, puis juste avoir une espèce de petite hystérie commune, là, tu sais,
mm-hmm.
Fébrilité. Mais c'est un film caster, nous deux, on voit en visionnement de presse, on est 6 dans la salle, ben, tout le monde est bien tranquille.
Ouais, c'est pas le même vibe.
Puis après, le vendredi soir, quand il est sorti, ben, je pense pas qu'il y avait des salles pleines de 250 personnes. Hein. Je pense que c'était plus modeste quand même comme événement. Est-ce que Long Legs avait eu ça? T'sais, il y avait un hype, il y avait beaucoup de salles pleines, mais je suis pas sûr que c'est un film que les gens réagissent tant que ça. Là.
Mm-hmm.
Si ça se trouve, peut-être du monde riait de Nick Cage, là, fait que c'est pas le même genre, je sais pas. Ben, j'imagine qu'en Menteuse, quand Deux femmes en or va sortir, les gens vont rire ensemble, mais il y a pas de...
Je pense pas qu'il va y avoir de surexcitation.
Non, c'est ça, de mouvement. Ouais.
Je pense que le prochain sera probablement peut-être le prochain Avengers, là, qu'on va peut-être sentir.
Ouais, puis ça, c'est pas genre 2027 même? Là.
2026.
26, prochain. OK. Ouais.
Mais rassurez-vous, là, c'est pas sur tous les écrans, ça. T'sais, parce que le film Minecraft aussi, vous relativisez que c'est non, juste sur 4000 quelques écrans, là, fait que tu sais...
Ouais, c'est ça. Empêchez-vous pas d'aller voir le film pour non, ça, mais ça. Sachez que c'est ça. Si vous allez le voir à 7h10 le samedi soir, ça se peut que ça...
Ça y a un petit plus peu énervé, plus,
c'est ben, ça. Ouais, c'est puis ça. Plus on avance dans le temps, plus ça va se calmer aussi.
Ça, effectivement. Ça.
Mais,
jusqu'au prochain trend TikTok.
Ouais. Parce que si c'était inacceptable, ben là, les salles, je sais, il y aurait de la sécurité, puis des policiers, puis à la limite même, peut-être... Et ça leur est sorti de leurs écrans, dire c'est que des problèmes. Oui, l'argent, mais dans le fond, ça me coûte plus cher que le bénéfice que j'ai, etc. Mais c'est juste, vous avez dû entendre parler quand même de ce phénomène-là.
Ben oui.
La fameuse, il y a surtout la vidéo TikTok du... celui qui amène un poulet vivant là, qui sort et tout. C'était quelque part aux États, là, dans le sens, c'est pas arrivé partout, à Blainville puis à Rosemère.
Écoute, pour entrer avec un poulet vivant, les gens l'ont laissé rentrer. Là,
ben, il y avait ça dans le sac à dos. Là, j'espère juste que le poulet a pas été tué au bout de tout ça. Là,
ils ont fait des croquettes à la fin.
Oh, c'est ça, ils l'ont laissé au comptoir resté pour la friteuse. T'avais-tu d'autres nouvelles?
Ben oui, écoute, okay. Parce que ces jours-ci, c'est le fameux Star Wars Celebration, la convention annuelle de tout Star Wars et Lucasfilm.
En route vers le May the 4th, en plus.
Ouais, tout à fait.
Là, il y a Andor saison 2 qui sort.
Ouais.
Et le Star Wars épisode 3, 20e anniversaire qui ressort au cinéma dans une semaine. On est très Star Wars. Au-delà de Minecraft, c'est très Star Wars. En
ben effectivement, ça monopolise un peu l'attention dans le monde du divertissement. Cette année, c'est à Tokyo parce qu'on alterne toujours entre une ville aux États-Unis et une ville internationale comme ça.
Ça a déjà été à Montréal?
Non, Au Canada, Toronto? Je pense que c'était Toronto, je ne suis pas certain. Mais il me semble que c'était Vancouver qui a déjà eu ça.
Puis si tu as annoncé comme 9 ans d'avance, ça va tout être quoi?
Non, je pense qu'à la fin de celui-ci, il va annoncer l'année prochaine. Si okay. Je pense
ben là, il va retourner aux États.
Ouais, c'est ça.
Mais si c'était, mettons, New York, Boston, irais-tu? Ouais. D'aller faire un... okay,
moi, je pense, oui, oui. Ouais. J'ai failli y aller, c'était en 2020... C'était quand le 40e, en 2017, pour le 40e du premier film de Star Wars. Je me rappelle plus c'était où. Je pense que c'était Anaheim. C'est quand même Californie, mais...
2017, c'est ça. Ouais, OK, bref, c'est ça. Oui, on approche du 50e.
Ben, c'est ça, parce que je savais que, généralement, dans les éditions anniversaires, comme ça, George Lucas était toujours présent, puis Harrison Ford, Mark Hamill, tout le gratin ouais, du premier film était venu pour célébrer le 40e anniversaire du film. Fait que c'est comme l'occasion unique, parce que ces vedettes-là ne sont pas toujours à chaque événement. Là. Mm-hmm. Fait que là, pour 27...
Ouais, ça va me démarrer. Mais comment ça te met de l'argent de côté, là? Ouais, comme ça, tu seras prêt, peu importe c'est où.
Ouais,
mais là, attends.
Normalement, il va être à l'étranger. Ouais, exact. À moins qu'on fasse exception, puis qu'on le fasse. Bon, en tout cas, ça sera suivi.
C'est
là.
Ça. Tu vas mais, le mais là, si là, il est à Tokyo, t'as dit?
Ouais.
Okay, fait que ça peut être moins pire. Ça risque de retourner plus dans l'Europe, là.
Voilà. Il y a deux ans, c'était Londres qui avait eu.
OK.
Mais bref, on a annoncé enfin, parce que c'est ça, donc on parle de 27, le 50e du premier Star Wars qui va ressortir en salle, c'est certain. Mm-hmm. Mais il ne pouvait pas y avoir de nouveaux films Star Wars pour 2027. Ça aurait été impensable pour le 50e anniversaire. On sait que l'an prochain, ce sera le film de Mandalorian et Grogu de Jon Favreau. Et là, finalement, c'était savoir...
Excuse-moi, rappelle-moi, c'est-tu pour les fêtes?
Mois de mai 26. Ouais. Donc, quelques semaines
même
après...
Même pas au mai de Ford?
Non, ça va être le Avengers qui sort pour le premier week-end de mai. Donc,
fait
Star Wars
Disney,
va suivre
juste trois semaines.
Ils vont faire la même chose donc en 2027 parce qu'il y aura le deuxième Avengers. Mm-hmm. Et finalement, ce nouveau film de Star Wars qu'on vient d'annoncer pour le 28 mai 2027. Et ce sera celui de Sean Levy qui finalement sortira. C'est comme arrivé un peu de nulle part
c'est
après Deadpool.
C'est un spin-off de rien, c'est un film...
Non, c'est unique, qui va se dérouler une vingtaine d'années après The Rise of Skywalker, donc après la dernière trilogie. Bon, si on parle Starfighter, logiquement, ça va être à propos d'un pilote.
OK, le film va s'appeler Starfighter.
Oui, excuse-moi, j'ai oublié de dire, donc ça va être Star Wars Starfighter.
C'est pas le... C'était quoi dans le nom de base de Luke Skywalker? C'était Starkiller? C'était pas une affaire de même, là? Avant qu'il change pour le film.
Ah, là, son nom, oui, c'était Luke, oui, Starkiller.
Starkiller, mais là, ça va être Starfighter.
Starfighter, qui va mettre en vedette Ryan Gosling.
OK, on avait entendu ces rumeurs.
Ouais,
mais il y avait Reynolds aussi dans les rumeurs à un moment donné, je pense.
Ben,
les deux Ryan, c'est parce que Reynolds a tellement travaillé avec Sean Levy.
Donc, c'est confirmé, Gosling était sur place, donc grand fan de Star Wars. C'est quand même rare qu'on va chercher comme un nom très connu. Souvent, dans Star Wars, on préfère des noms. Mais ce qui fait un peu jaser, c'est que Levy a mentionné finalement aussi que Mickey Madison avait été approché pour un rôle, mais qu'elle a décliné finalement.
Oh, okay.
Fait que Mickey a passé sur un des rôles féminins dans le film. Évidemment, on n'a pas plus d'informations, mais voilà. Donc, pour les fans de Star Wars, on devrait être gâtés en 2027 pour le 50e. Fait que c'est tout pour les nouvelles de mon côté. Bande annonce,
Il y a beaucoup de bandes annonces, deux puis trois de films à venir.
Mais je pense que la plus intéressante, c'est la deuxième de Fantastic Four, honnêtement, qui me donne de plus en plus le goût. Je pense que ça va être honnêtement un retour en force pour Marvel, parce que là, on change carrément de ton. On est dans les années 60, probablement dans un univers alternatif, parallèle. Et là, on a pu voir finalement Silver Surfer, mais alerte au wokisme, là, parce que c'est vraiment une femme. On n'était pas sûr si c'était androgyne ou quoi, avec ça, c'est sûr qu'il y en a qui vont sûrement chialer sur les réseaux sociaux.
Elle a un gros décolleté argenté.
Mais on voit quand même une petite forme féminine. Mais visuellement, ça a de la gueule. On peut entre-apercevoir Galactus mais dans sa forme préférée, sous forme de comique, là,
avec
espèce de grand géant, là, casque, tout ça.
Puis, mettons, moi, j'ai pas réécouté cette balance-là parce que comme il y a une nouvelle pour 28 Years Later, 28 ans plus tard, puis je m'en préserve un peu parce que j'ai hâte de voir ces films-là. Mais est-ce qu'il y a beaucoup un peu de spoilers dans la bande-annonce, tu penses, de Fantastic Four, tu sais?
Ben, je sais pas si c'est des gros spoilers, mais en tout cas, il semble vraiment que Madame Fantastic et Reed Richards, Monsieur Fantastic, forment un couple déjà dans le film.
Okay.
Elle annonce qu'elle attend un enfant, donc on va jouer là-dessus aussi, parce qu'effectivement, dans les bandes dessinées, elle a eu un enfant avec lui.
Invisible et élastique, là.
Je me rappelle plus, c'était, je pense que c'était Herbie, qui avait le même nom du robot, en tout cas. Mais,
la coccinelle.
aussi. Mais c'était comme un personnage un peu mal aimé, en tout cas, bref.
Le bébé mal aimé?
Ouais.
OK.
Puis, on voit bien sur V-Surfer, fait que ça, c'est le fun d'en
faire. OK, de je pense que je vais écouter.
Ouais. C'est le surtout 26 l'esthétisme, juillet. La vibe, là, vraiment le fun. C'est quand même réalisé par Matt Shankman, qui a peut-être fait la meilleure des séries Marvel jusqu'à date pour la télé, pour le streaming qui est WandaVision.
OK.
Fait que j'ose croire que ça va dans la bonne direction. Je pense qu'on retrouve un côté plus léger, plus humoristique qui manquait un peu, je pense, à Captain America, là, qui était peut-être un peu trop drabe par moment.
Je suis quand même curieux aussi. Ça, c'est 26-28 juillet, là,
ouais,
quand même.
C'est ça, ouais, fin juillet.
Puis, mais de voir Thunderbolts le 2 mai,
ouais.
Pour fans de Marvel, je trouve qu'il a l'air d'avoir ce... Tu sais, les Fantastiques, oui, c'est une gang, mais un peu... c'est des nouveaux personnages, là, entre guillemets. Là, dans ouais. On les a pas vus encore dans l'univers comme ça. Puis, mais l'espèce de mélange des Thunderbolts mm-hmm. qui vont tous se créer, puis tout, après, est-ce que là, l'intrigue va être juste plus grande que nature et tout, je sais pas. Mais j'aime bien le Florence Pugh comme comédienne, fait que... Pas, j'aime bien son... Ils ont l'air de centrer beaucoup autour d'elle, la gang, puis de la mettre comme la lead.
Ouais.
Curieux de voir ça.
C'est, moi aussi.
Ils ont fait beaucoup de place aussi au soldat, le soldat de l'hiver, au Winter Soldier, avec son bras, puis tout. Fait que, Bucky Barnes.
Oui, ça peut être sympathique. Là, une vibe un peu à Suicide Squad.
Ouais, on s'en reparle dans 2 semaines.
Oui, ça s'en vient vite.
OK, des films.
Oui, allons avec les films. La grosse sortie de la semaine, c'est Sinners de Ryan Coogler.
Oui, justement. Écoute, on va finir par arrêter de parler des Marvel, mais qui s'est fait connaître pour les Creed et Black Panther, l'univers Black Panther. Et souvent tourné avec Michael B. Jordan dans... les Creed, et c'était son premier méchant dans le premier Black Panther. Alors, je crois et j'oserais estimer qu'ils sont des amis dans la vraie vie. Et, et de même que Ludwig Göransson, qui fait la musique. Mais lui, eux, je sais qu'ils sont amis, ils se sont connus à l'université. Ils faisaient leur projet ensemble. Lui était en musique, Coogler en cinéma. Et bref, fait ici, je pense que c'est vraiment le premier film comme... d'auteur très personnel que Coogler fait au cinéma.
Depuis Creed, en fait.
Oui, mais Creed était comme attaché à une franchise.
De son film avant Creed, excuse-moi. Depuis,
il avait fait de quoi avant
Creed? Ouais, Fruitful Salvation, en avant la même. C'est ce qu'il avait fait, mais c'est qu'un film d'auteur.
Je sais même pas c'est quoi. Okay.
Ouais.
Fait que là, il y a eu le budget, les moyens de ses ambitions, comme on dit, avec Warner Bros. Qui ont dit « Oui, vas-y, fais-nous ce film d'horreur... drame social d'horreur. Il y a un bon parallèle, on y viendra là, avec toute l'histoire afro-américaine là-dedans. Ça met en vedette donc deux fois Michael B. Jordan, deux fois plutôt qu'une dans un double rôle, où là il joue vraiment des jumeaux, contrairement à d'autres films à De Niro qui jouait juste deux bonhommes, deux amis, qui étaient étonnamment pareils. Hayley Steinfeld, Jack O'Connell, un visage un peu moins connu mais qui joue dans plein de films, qui va faire un méchant là-dedans. Miles Caton, une découverte, quasiment un casting sauvage pour Coogler. On est au début des années 30. Alors, les deux jumeaux sont très costauds, puisque c'est dur de pas faire croire que Michael B. Jordan est en forme et qu'il y a des grosses cristies d'épaule. Ils ont fait la Première Guerre mondiale et depuis, ils sont allés devenir des petits gangsters à Chicago là, en travaillant pour Al Capone et tout. Et là, ils ont comme accumulé certaines richesses, de l'argent, et ils veulent revenir dans leur village qui est comme une espèce de campagne plus pauvre en périphérie de Chicago.
Non, on retourne au Mississippi. Ils retournent dans le sud.
Vraiment. Ah, dans le sud. Je pensais qu'ils étaient autour de Chicago. Non. Mon erreur. Et excuse-moi, je suis rendu là dans mon synopsis. À Clarksdale, au Mississippi. Sauf que là, ça fait comme à peu près 7 ans qu'ils sont plus là. La ville a beaucoup changé. Et eux, ils veulent starter un bar pour les Noirs, pour les Afro-Américains. Donc, on prend de l'alcool, on danse, il y a du blues. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils vont chercher leur cousin, leurs amis, un harmoniciste, pianiste, le jeune guitariste et tout. Puis là, ça prend le grand opening. On a acheté une vieille grange. Puis c'est ce soir que ça se passe. On invite tout le monde. Fait que... le film prend son temps d'exister comme ça, là, de le setup, avant que... Écoute, je ne sais pas si c'est un punch ou pas, là, mais...
Non, je pense, je pense que non,
parce que dans bande-annonce, on le vend, c'est un film de vampire aussi. Fait qu'éventuellement, shit hits the fan, ils sont un peu coincés dans le bar et il y a des vampires blancs, pour la plupart, autour de leur petite cabane. C'est à peu près ça la prémisse du film. Ouais, des fois, je parle longtemps. Je t'envoie tout de suite la balle, puis je reviendrai.
Bon, ben, parfait. Donc. En tout cas, pour ma part, depuis le développement de la bande-annonce, j'étais très, très intrigué et curieux de voir...
Les premiers échos film. Étaient ouais, puis en... excellents depuis deux semaines. Je ouais, peux, ouais. Oui. Tu l'as montré à South by Southwest? Ou...
Je pense pas.
Mais... Première américaine, etc.
Ouais, c'est ça. Mais très gros buzz, effectivement. Et écoute, j'ai pas été déçu. Faire des films de vampires, c'est rendu un peu quand même casse-gueule aujourd'hui. Mais Coogler a réussi à s'amuser avec les codes du genre. Puis on est un peu dans le style bande dessinée aussi. Là, on parlait de Mario tout à l'heure. T'sais, c'est pas un film qui est sérieusement fait, mais en même temps, tu as un côté un peu bonkers, je dirais en anglais, là, qui est assez grandiose par moment.
Oui, oui, oui.
Il y a sa touche d'auteur.
Et quelques aussi. Plans séquences, ouais. un de pétage de vampire puis tout, mais un autre de musique, là, parce qu'il y a le mythe là, que c'est une fois de temps en temps, il y a des musiciens tellement forts qui vont transcender entre le monde des vivants et des morts, puis faire communiquer les esprits. Puis...
Et ramener des démons, des vampires, des trucs comme ça. Fait que prémisse vraiment le fun. Très bien amené. J'ai beaucoup apprécié Elie Steinfeld, une comédienne que j'adore. Un peu en contre-emploi. Fait que c'est le fun aussi de l'avoir joué avec ça. La réalisation est vraiment soignée de Coogler. C'est beau. La reconstitution historique est hyper bien faite. Mm-hmm. Quand même un gros budget. Mais quand même, l'argent est à l'écran. Avec du gros fun.
C'est combien qu'il est estimé?
Pas loin de 100 millions quand même. Okay. Ouais, c'est ça. On retrouve des touches de Tarantino. D'ailleurs, il s'en est pas caché qu'il y a une très grande influence de From Dusk Till Dawn. Mais aussi du film de Faculty, donc toujours de Robert Rodriguez. Deux de ses films préférés.
Ça, c'était les profs limaces, là. Ouais. On parlait de limaces et tout. Des premiers de Elijah Wood aussi là-dedans.
Oui, je pense que oui. Si vous voulez du gros fun, honnêtement. Je pense que The Sinners est bien réussi. Puis ce qui est le fun, on entend souvent, il y a juste des films de super-héros puis des trucs, ou Minecraft, mais pour une fois qu'on a un film original, allez-y, puis encouragez-le, qui est bien fait, qui est le fun.
Mon bémol, c'est plus un attention. Tu sais, c'est pas, un film d'auteur, il y a de quoi de racial un peu dans le film là, par rapport à la musique. Eux sont bien dans le blues, les petits blancs pecno arrivés avec leur banjo à jouer du bluegrass. Fait que tu sais, il y a cette dichotomie-là, le côté... Tu sais, j'ai pas mis le doigt exactement, le croc exactement sur c'est quoi son point dans le film. Là. Puis c'est bien dans le sens que ça prendrait un deuxième visionnement. Au début, je pensais que ça allait être juste comme l'esclavagisme, mais c'est pas ça. C'est plus sur la culture, donc l'appropriation de la culture peut-être par les blancs, mais à un moment donné... Il y a des Noirs qui se font mordre par des vampires. Fait qu'eux aussi deviennent assimilés à ça puis essaient de convaincre les autres. Ils utilisent bien les codes des vampires. L'ail, le pieux, l'invitation à rentrer à l'intérieur. Là,
qu'on oublie parfois.
C'est dans vraiment Buffy contre les vampires. Ouais. Ils jouaient beaucoup avec ça. Fait que,
The Lost Boys pour moi.
Je l'ai jamais vu. Faudrait fermer. Je vois ça. Fait que c'est beaucoup là-dessus. Hey, invite-moi donc. Puis là, ils sont comme, ouais, c'est bizarre. Tu sais, il y a un moment aussi, ce que j'aime bien, c'est que tu sais, le cliché, par exemple, des films de zombies, c'est qu'on sait tous c'est quoi un peu un zombie. Il y a plusieurs niveaux. Puis là, la plupart des films l'accueillent jamais comme s'ils savaient pas du tout c'était quoi. Je comprends que c'est hallucinant que ça arrive, mais à un moment, t'es comme « Hey, fuck, c'est un zombie », tu sais, c'est la description populaire qu'on fait. Ouais. Puis j'avais peur que dans ce film-là, ça soit ça aussi. « Ah, mais qu'est-ce que ces créatures? » Puis à un moment, il y a une fille qui dit « Hey, guys, c'est des vampires », tu sais, puis les autres font comme « Hey, de quoi, tu sais? » J'ai dit « Oui, tu sais, mentionnez-le, sinon on vire fou dans la salle à dire vrai. Que... » Moi, j'apprécie ça. Puis c'est elle qui est plus un peu plus ésotérique, là, c'est ça. Fait que c'est un côté musical-là. Fait que c'est pas une comédie musicale, mais c'est assez présent dans cette musique-là. C'est pour ça qu'au début du film, je savais pas que ce serait encore Ludwig Göransson, qui est un Suédois. Moi, je pensais qu'il serait allé voir un bluesman. Fait que il a dû collaborer parce que Göransson est vraiment un pro. C'est quand même lui qui a fait les musiques de Black Panther qui sont inspirées de tribus africaines. Puis de toutes ces affaires-là, ben, il a fait le voyage puis il est allé découvrir des nouveaux instruments et tout. Fait que je pense que c'est vraiment un passionné de la musique et tout. Là. Fait que je souligne beaucoup la part qu'il a faite là-dedans, la liaison. Fait que c'est le fun de voir que Coogler a pu sortir un peu de tous ces carcans du Marvel qui, autant est contraignant pour les acteurs qu'il faut qu'ils restent en forme puis qu'ils peuvent plus rien faire puis qu'ils sont attachés au rôle puis blablabla. Mais je pense que c'est pareil pour les créateurs. Là, une fois qu'ils font 2-3 films, là je peux-tu respirer un peu? Même de le voir, tu sais, il est pas chez Disney, là, il est allé complètement ailleurs. Ben, quoique c'est Warner qui font les Creed puis tout. Fait que c'est pas si en terrain inconnu.
Non, mais c'est un film très...
Fait que faut pas aller voir un Get Out 2 ou de quoi. Tu sais, comme je dis, le film dure 2h20, puis je pense que le premier vampire, ça prend 1h30, 1h40 là, avant que ça arrive. Ce qui est un peu From Dusk Till Dawn-esque, là, tu sais. Au début, c'est ça, c'est les gens qui se croisent, on comprend leur passé, leurs anciens amours, leurs trucs pas réglés, leur deuil, la violence avec les parents versus les enfants, il y a souvent ça. On installe le bar, là, ça part bien, là, les filles reviennent nous courtiser, puis là, à un moment donné, il y a des problèmes. Ouais.
Effectivement, je pense que c'est une petite critique que je préfère. Il y a quand même quelques petites longueurs, peut-être un peu non nécessaires dans la première portion, mais écoute, le payoff est quand même très bon à la fin. Fait qu'il faut juste se laisser embarquer. Mais c'est quand même un film de très grande qualité.
Puis si vous savez pas vraiment de quoi on parle, ben moi je vous dis, allez pas voir les bandes-annonces parce que à cause de ça, je trouve que toutes les scènes d'action qui ont été mises dans la bande-annonce sont en fait les séquences de la dernière demi-heure. Fait que je trouve ça un peu dommage pour ça.
Puis, petit fun
fact. C'est pratiquement un huis clos. Le film se passe en 24 heures. Là. La journée, ils arrivent, ils trouvent leurs amis, ils montent le bar, ben, peut-être en 2 jours, là, achètent la place, puis tout. Puis c'est une seule nuit de problème.
Donc, petit fun fact. On avait parlé souvent des titres de films qui sont en tournage, puis qu'on utilise alors, j'ai réussi à le voir pour celui-là. Alors, le titre de tournage pour cacher la production, c'était Grilled Cheese. Il associe beaucoup la création d'un film à la création d'un plat culinaire.
Okay.
Et là, il disait qu'il faisait comme un plat pour tous, que tout le monde aime, qui est réconfortant. Alors, c'était pour ça que c'était Grilled Cheese.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment ailleurs. C'était pas comme au lieu de tu sais, le Night Blues, là, tu sais, une affaire comme ça qui aurait pu être un lien entre la musique, puis ça se passe la nuit, puis tout.
Et lui, c'est vraiment un grand fan de blues, et dans le fond, le film est un peu une lettre d'amour à un de ses oncles qui était très, très près, je pense que Coogler vient de cette région-là, du sud des États-Unis, Mississippi, tout ça. Et un de ses grands-oncles qui était un grand, grand fan de blues et tout, donc l'initiait un petit peu à cette musique-là. Qui est décédé il y a quelques années. Alors, c'est pour ça que tout, je pense, est très personnel comme film pour Coogler.
Si je me souviens bien, à la fin, on voit un personnage, il y a comme un petit saut dans le temps, puis c'est Bodyguard. Il joue pas lui-même, mais qui interprète un personnage.
Et d'ailleurs, ne vous levez pas, ne quittez pas la salle pendant le générique, parce que le film s'étire un petit peu.
Pour une épilogue, prologue.
Oui, un épilogue.
Épilogue, toujours qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a
après.
Mais
pas une petite scénette, là, c'est vraiment quelques minutes de pause.
Oui, tout à fait.
Qui vient ouvrir l'univers, parce que je pense que Coogler, c'est pas d'illusion qu'il aimerait ça. Puis d'ailleurs, il a conservé les droits de la propriété intellectuelle de Sinners, donc ça appartient pas à Warner, ça faisait partie de l'entente qui a les droits sur cet univers-là. Et tu parlais de Ludwig Göransson, donc il y a vraiment quand même une scène qui est très... très bien réalisé,
un plan séquence comme les musiciens, toute la musique évolue, on entend plus fort ceux qu'on est plus proche, puis là ça devient à travers le temps là,
c'est ça. Donc ça a été tourné vraiment live sur place parce que Coogler a utilisé vraiment dans les caméras IMAX, mais en pellicule, donc tourné en 70 mm. D'ailleurs, Christopher Nolan a été d'un aide technique l'aider à apprivoiser ces caméras-là et tout ça. Donc, sur le set, évidemment, c'est des grosses caméras, ça prend beaucoup de place. Fait que toute cette chorégraphie-là devait être faite. Et Göransson a joué la musique live aussi. Donc, tout ça a été enregistré, musique et images captées en même temps.
Pure folie.
Oui, tout à fait.
Voilà. Alors, Sinners, pêcheurs au Québec, qu'on recommande chaudement.
Vraiment.
Vous nous connaissez après tout ce temps, j'imagine. Ce genre de film différent de la norme principale. En tout cas, jusqu'à présent, moi, il se retrouverait dans mon top de fin d'année, mais l'année est jeune aussi, encore.
Il y a des bonnes chances de s'y retrouver, effectivement.
Voilà.
Allons maintenant dans la cour.
Dans la cour.
Avec le fil de Daniel Auteuil. Oui. Ou à la cour.
De et avec ouais. Daniel Auteuil, et également Grégory Gadebois, qui est dans tous les films. Auteuil joue un avocat qui, depuis qu'il a fait innocenter un meurtrier là, il y a quelques années, il s'est dit qu'il ne prendrait plus jamais de dossier criminel parce que lui, il vit mal avec le fait de défendre des criminels. Il a mieux défendre des innocents. Mais là, il va faire la rencontre de Nicolas Milik, donc le personnage de Gadebois, qui est un père de famille accusé du meurtre de sa femme. Et ça le touche vraiment, puis il est certain qu'il est innocent. Alors, il va le prendre... bout de bras pour essayer de pour convaincre les gens de l'innocence de son client. Fait que ça va le faire retourner là, dans ces procédures-là. Et voilà. Alors, c'est un drame thriller criminel là, à essayer ouais. de voir qui dit vrai, est-ce faux, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir et tout. Là. Fait que c'est un film là, très excitant. Je pense qu'il est inspiré d'un livre ou d'un vrai cas ou quelque
ouais,
chose comme
c'est
ça.
En fait, c'est Daniel Auteuil qui a découvert par sa fille, qui est la productrice du film,
okay.
Nelly Auteuil, qui, pour petit potin, c'est la fille qu'il a eu avec Emmanuel Béard, quand même. Je savais pas qu'il avait été en couple
okay.
au milieu des années 80, donc quand ils ont fait Jean de Florette et Manon des Sources, ils étaient déjà en couple.
Ah, bon.
Mais bref, elle lui avait découvert ce blog-là d'un avocat qui a parlé de plusieurs cas et tout ça, et du métier d'avocat, et fait qu'il était vraiment fasciné par tout ça. Alors, c'est inspiré d'un des cas qu'il a défendu. Daniel Auteuil, toujours égal à lui-même, honnêtement, je pense qu'il fait partie de la crème des acteurs français. Là. Je veux dire, il est toujours excellent, il choisit souvent des projets de qualité. Puis c'est quand même rare qu'il tourne des films, c'est son cinquième seulement en carrière.
Ouais, réalisé.
Là, ouais, qu'il a réalisé.
C'est quoi les autres,
tu souviens-tu? Il avait fait Marius et Fanny, le diptyque de Marcel Pagnol, ouais. Au tournant des années 2010. Son dernier, c'était, j'ai oublié de le noter, ça fait 6 ans en fait. Tu peux aller voir si tu veux pendant ce temps-là. Mais je pense que c'est son premier film plus sérieux. Je pense qu'il a fait plus dans un peu la comédie dramatique. Fait que drame judiciaire, moi, j'ai vraiment aimé. C'est un genre que j'aime. J'ai bien aimé aussi Grégory Gadebois. Fait que si vous aimez le genre, n'hésitez pas. Je pense que c'est un très bon film à voir.
Il avait fait La fille du Puisatier.
Ouais.
Ça, c'était en 2011. Marius et Fanny, c'était en 2013. Puis en 2018, Amoureux de ma femme, avec aussi le bon Gérard. Puis l'autre, c'est Le garçon d'appartement en 1980. On dirait quasiment une pièce de théâtre adaptée. Fait que, ouais, il se fait plus tranquille en réalisation.
Ouais, ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, il avait mentionné qu'il ne croyait pas revenir derrière la caméra, mais il était tellement fasciné par cet univers-là. Il s'est senti le besoin de vouloir raconter cette histoire. Donc, puis, autre fun fact, il y a aussi une autre de ses filles, Aurore Auteuil, qu'on peut voir dans le film, qui joue la sœur de la femme qui a été assassinée. Là,
okay.
Qui en veut un petit peu. Personnage de l'avocat qui va défendre le présumé.
C'est ça.
Ouais, c'est ça. Fait que, petite affaire familiale pour...
Très bon film de cinéma. Je trouve un très bon film de printemps comme ça. C'est le fun à écouter. T'sais, c'est pas un thriller comme à l'époque de Net puis ces affaires-là. Il n'y a pas de
non,
gun
grand drame
dans le film. Tout.
Ouais,
ouais, c'est ça, exact. Mais le côté de...
Tu peux penser à Anatomie d'une chute. Là, on est dans...
C'est ça. Mais le côté plus de l'avocat puis qui devient vraiment... intense là-dedans aussi. Mm-hmm. L'histoire se déroule sur quelques mois, années, là, tout le temps des procédures judiciaires et tout.
Oui.
Fait que, ouais, excellent film, Le Fil.
Du côté d'Alger, c'est
ouais, du côté de la justice aussi.
Oui, mais là, on est un peu plus dans le thriller avec Alger de Chakib Taleb Bendiad.
Oui, c'est rare qu'on ait des films algériens quand même, et de cette qualité, d'autant plus. On va suivre un commissaire de police qui va enquêter sur l'enlèvement d'une fillette qui se fait grabber par une voiture comme ça qui passe. On le sait que dans le cas des enlèvements, ils doivent agir assez rapidement, genre dans les 48 heures. Et il va se faire un peu... forcé à travailler avec une psychiatre dans son équipe. Et bien là, on comprend aussi que les mœurs sont un peu différents dans différents pays et tout. Fait que c'est encore plus chiant de travailler avec une non-police et une femme et tout ça. Fait que toute aussi l'unité qui sont plus dans, sauter rapidement dans l'action, aime un peu moins ce côté réflectif-là.
Ben, qu'on veut absolument trouver un responsable, mm-hmm. mais les personnes ou la personne qu'on cible, c'est peut-être pas nécessairement elle, non.
Exact, c'est ça.
Qui est coupable de l'enlèvement de l'enfant.
Ouais, dans le fond, à peu près n'importe quel pédophile qu'on trouve va faire la job, puis ça va être correct, tu sais. Alors qu'eux sont plus... Ben, ça serait bien de retrouver l'enfant, surtout, plus que juste pointer un coupable.
Fait qu'elle a quand même une belle carrière à l'international. Elle avait remporté un prix au Festival de films de Rhode Island aux États-Unis.
OK.
Était la sélection pour l'Algérie, pour les Oscars. Ce que j'ai aimé, moi, d'Alger, c'est qu'on reprend... Enfin, on fait un thriller, mais avec les codes du cinéma américain.
Mm-hmm.
Fait que on est bien plongé dans l'atmosphère, c'est bien recréé, la tension. Personnage quand même intéressant. On est un peu dans les personnages stéréotypés du genre, mais c'est bien fait.
Oui, exact.
C'est bien rendu.
Ça dure comme une heure et demie, aussi, je pense, en plus.
Très dynamique.
Puis la ville est bien au cœur.
C'est un personnage.
C'est exactement. Ouais. Les petites ruelles, à Mané, il y a une fameuse poursuite à pied d'un ruelle que tu finis par te perdre, un peu quasiment comme... je sais plus si ça se passait à Alger, mais en tout cas, dans OSS 117, non, c'était au Caire, là, lui, par contre, mais qui niaise, qui se perd finalement dans un raccoin. Mais c'est un peu ça, là. Tourne à gauche, tourne à droite, monte deux escaliers, passe dans une cour, va là, puis t'es comme, hey, je sais plus pantoute où je suis, puis là, je suis seul à courir après un criminel. Là, est-ce que je poursuis vraiment ou je m'arrête, là?
Et c'est quand même impressionnant parce que pour le réalisateur Shakim, c'est son premier long métrage. Eu quand même quelques distinctions avec ses courts-métrages, qui ont voyagé beaucoup dans différents festivals, avait gagné différents prix, qui est un franco-algérien, donc reste maintenant en France, mais c'est un peu un retour pour lui dans sa ville natale pour faire ce film-là. Puis j'ai peut-être...
Ah, j'allais dire, coproduction canadienne aussi.
Oui, c'est Canada quelques dans le pays, c'est ça. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on a un peu accès aussi au film ici. Et puis, ce que j'ai à dire, c'est que moi, je pense que j'ai... petite appréciation de plus parce que j'ai eu le bonheur quand même d'aller deux fois à Alger pour un festival de bande dessinée là-bas.
Ah, okay.
Fait que tu sais, puis en plus, j'ai vu des quartiers où je me suis promené, la fameuse poursuite dans le marché, puis tout ça, c'est très central dans le centre-ville d'Alger. Fait que c'est drôle de voir ces petits coins-là, oui, ça, je l'ai vu. Fait que je trouve qu'il a bien rendu la ville, c'est intéressant.
Il est de tout, c'est rare, il fait le réel scénario, mais la musique aussi.
Ah, ça,
c'est lui qui fait Shakim. Et t'as parlé...
Ben oui, j'ai eu la chance d'interviewer le réalisateur Shakim et aussi l'acteur...
Nabil Azli,
qui est comme une grosse vedette maintenant à Alger. Là. Fait que parmi mes quelques... contact que j'ai encore là-bas, ils étaient très jaloux que j'ai eu la chance de lui parler. Ouais.
Ils jouent-tu dans les séries télé?
Il a fait beaucoup de télé, mais un peu de cinéma aussi. Puis ce qui est intéressant, j'en disais avec Shakib, c'est que justement, il y avait une volonté de casser un peu l'image des films qui se fait là-bas. J'ai l'impression que c'est un peu comme nous autres aussi. Il se fait beaucoup de films d'auteurs, peut-être un peu moins de films commerciaux, moins de films de genre. Donc pour lui et pour eux, c'était comme un peu une première, là, faire un peu un thriller américain. Fait que c'est super intéressant de lui jaser. Puis s'inspirer de faits réels aussi.
Mm-hmm.
Fait que vous pourrez lire ça sur monciné.ca la semaine prochaine. Là. Il n'est pas encore en ligne, mais ça s'en vient. Je suis en train de monter l'entretien, mais il est super gentil. Là, début trentaine, quand même assez jeune, il était hyper passionné dans la conversation. Puis c'est une des rares fois que un réalisateur parlait beaucoup comment il a tourné des choses. Fait que je ne sais pas nécessairement tout dans l'entretien parce que bon, il faut se limiter un peu. Là, mais ça a été vraiment une belle conversation puis c'était super intéressant de
C'est ça,
de
il a fait une tournée médiatique à Montréal cette semaine.
C'est ça, ils étaient ici. Puis l'acteur, d'ailleurs, disait une petite anecdote comme ça, vu qu'il est connu là-bas, puis c'est quand même compliqué de tourner en Algérie. Des fois, tu te fais refuser des permissions à dernière minute, tu dois changer de place. Fait que pour la fameuse séquence de poursuite dans le marché, dans le centre-ville, ça a été tourné avec caméra cachée, cinéma sauvage.
Fait que les réactions des gens sont pas mal toutes
authentiques. C'est ça. Puis là, il disait c'était drôle parce que un habile qui court, mais ça prenait 20-30 secondes que les gens le reconnaissaient. Fait que là, il arrivait, puis là, il venait le voir, puis là, il voulait se prendre des selfies avec lui, tout ça. Il se demandait pourquoi tu cours comme ça, puis ça, les deux disaient, on tourne un film, les caméras sont cachées, tout ça. Fait que là, il changeait de coin un peu à chaque fois.
Aïe, aïe, quel coin.
Ça a été
quel
super.
Quel casse-tête, là.
Vraiment. Alors, Alger, si vous aimez les trailers policiers, c'est le fun parce que...
C'est comme si Marc-André Grondin essayait de faire subtilement un film dans Place Laurier.
Ben, c'est clair, c'est ça. Là. Ou dans le Vieux-Québec, il se met à courir.
Oui, c'est ça, exact.
C'est rue Saint-Jean. Là,
en pleine foule, là, c'est ça, c'est journée de terrasse. Là.
Mais c'est ça, c'est un trailer bien fait, très accessible. Puis ce que j'apprécie, c'est de le voir dans un contexte d'une ville qu'on voit très peu... dans nos vies, notre culture.
Ouais, fait que c'est qui n'est pas non plus... Tu sais, comme dit, c'est eux qui font un peu un film à l'américaine, mais c'est pas des Américains qui vont faire un film à Alger puis qui se l'approprient puis tout. Là, fait que, non, c'est vraiment cool. C'est ça. Il y a beaucoup de films cette semaine, beaucoup de bons films. Là, on va essayer de passer un peu plus rapidement. Ouais. Là, tous les autres... pour les familles qui ne veulent pas être perturbées par, par des poulets, il y a des pandas. Ben, Moon le panda de Gilles Demaes.
Peut-être du monde va arriver des pandas puis ils vont les lancer.
Oui, c'est ça, exactement. Ça serait, oui, amener votre bambou. qui est quand même un spécialiste des fables animalières, là, Gilles Demaes, après Mia et le lion blanc, le loup et le lion, le dernier jaguar. Là, c'est Moon le panda.
C'est vraiment le créneau qui occupe depuis plusieurs années.
Tournage animalier. Fait que c'est un garçon qui est envoyé chez sa grand-mère pour l'été, un jeune chinois.
Oui, ça se déroule en Chine.
Et non pas au zoo de Toronto. Et le garçon va se lier d'amitié avec un petit panda. Puis c'est un film qui a quoi, un message un peu sur la préservation de l'habitat.
Oui, mais beaucoup aussi, évidemment.
Y a-t-il des braconniers, des choses comme ça?
Non.
Je sais que tu as vu le film.
Oui, moi j'ai vu le film. Puis écoute, encore là, j'ai eu la chance d'interviewer Gilles Demaes. Un panda. Aussi, donc, oui, un panda serait terrible. Alors, il y aura aussi entretien avec lui sur monciné.ca. Mais vu que le panda est quand même un animal beaucoup moins dynamique qu'un lion ou un jaguar, donc on ne peut pas le mettre dans l'action. Donc la famille, le film tourne beaucoup au niveau de la famille, puis de la relation tendue entre père et fils. Donc le pour le jeune garçon, dans le fond, le prétexte d'aller voir un panda, c'est plus de se lier d'amitié, un lien affectif, parce qu'il y a beaucoup de misère à entrer en contact avec son père et tout ça. Là. Fait qu'on est beaucoup dans la nature, puis c'est ça qui est le fun aussi avec les films de Gilles Demaes, c'est qu'ils tournent vraiment tout alentour du rythme de l'animal, puis aucun effet numérique, là, avec tout ce qu'on voit à l'écran, le panda, c'est vrai, il n'y a pas à un moment donné un panda digital. Puis donc, tourner avec deux pandas pour les besoins du film, un plus petit puis un peu plus adulte. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça s'est fait un peu pendant une tournée qu'il faisait avec Mia et le lion blanc en Chine. Fait qu'il y a eu cette idée-là de faire le panda, mais évidemment, tourner avec un panda, c'est très difficile. Puis la Chine est très protectrice de ces animaux-là. Ouais. Mais tout ça s'est facilité parce que je pense que c'était en 2020 ou 2021. Il y avait une célébration entre l'Union de la France et la Chine et tout ça, je pense, un 50e de quelque chose. Fait que ça a un peu ouvert les discussions et les possibilités de... Mais il disait, une semaine avant qu'on arrive en Chine... on était en Chine, puis une semaine avant le tournage, je ne savais même pas si j'avais accès au panda ou non. Là. Fait que c'était comme un kit tout double. Puis finalement, ça a marché. Mais écoute, tu sais, le film est très simple. Honnêtement, je pense que Mia et le lion blanc demeurent son meilleur, son plus abouti. Ils sont nés dans... Très léger. Fait que pour les jeunes enfants, ça peut être très correct là, à partir du 4-5 ans. Là. Mais je pense que la force du film, c'est peut-être moins l'histoire, les personnages, mais vraiment les pandas qui, maudits, sont cute. Puis t'as juste le goût de prendre tout le temps chaque fois que t'en vois un. Tu vas lui donner un gros câlin.
Un peu malhabile.
Puis ils vont juste manger leur bambou, là, coucher. Là, fait que c'est quand même un peu drôle. Okay. Mais c'est magnifique aussi pour les paysages. Évidemment, on est dans la campagne chinoise et tout ça, dans une vraie réserve de pandas là, où ils ont eu accès à eux.
Tu me disais que la Chine est très protectrice de l'image des pandas parce qu'il n'y en a que là-bas et ça, c'est comme leur emblème.
Quand ils les prêtent, en fait, quand c'est on ça, les voit.
Quand les
zoos,
ils sont
ça.
En location.
Oui,
ouais, exact.
Effectivement.
C'est pour ça que je sais même plus si j'ai blagué avec le zoo de Toronto, mais je sais même plus si ils l'ont encore. Mais il y a un temps, ils l'avaient, puis c'est un gros investissement, c'est des millions de dollars par année de location du panda, là, de redevance. Plus, faut que tu fasses venir du bambou directement de Chine, puis il est super piqué, là, puis des fois, il mange pas parce qu'il est comme, non, celui-là, je le veux pas, amène-moi-en du plus frais, puis tout. Fait que ça coûte super cher. Fait que je sais qu'à un moment donné, là, le zoo, il était en réflexion de, ouais, est-ce que ça vaut la peine de continuer versus... Ouais. Est-ce que l'attrait du panda est assez gros versus le coût, là, finalement? Là,
mais tu vois, je ne savais pas que Toronto l'avait déjà eu. Ouais,
fait qu'ils l'ont gonné, finalement.
Ouais, c'est des manteaux de fourrure. Moi, j'ai déjà vu aux outils San Diego. Je sais que c'est beaucoup reconnu. Ouais. Fait que je pense qu'il est peut-être rendu le seul aux États-Unis ou en Amérique du Nord qu'il y a des pandas, là, parce qu'il n'y en a pas partout dans le
monde. Exact, puis c'est pas non plus des contrats à vie, là, si mettons...
Ah, s'ils veulent leur avoir...
10-15 ans, ben, tu vois, peut-être... Il doit y avoir des clauses de si tu t'en occupes pas bien puis tout, mais oui, peut-être que tu as quand même une entente parce que tu as un investissement de genre 20 millions pour l'enclos.
Je sais quand que Trump est arrivé au pouvoir pendant son premier mandat puis qu'il a commencé des guerres commerciales avec la Chine, ils ont menacé de les reprendre. Ça, je m'en rappelle très bien. Et ça stressait un peu le zoo de San Diego parce que pour eux, c'est leur grosse attraction. Ouais,
Trump
avec
devait
les
s'en sacrer, mais eux, c'est direct. C'est pas juste toi et ton pet.
Donc, les pandas peuvent être en otage commercialement.
Finalement, là, on s'en sort pas. Chaque semaine, on parle du MCU puis de Trump.
Oui.
Au Québec, dans nos forêts qui contiennent beaucoup moins de pandas, mais d'autres essences, il y a le documentaire Forêts urbaines. Parce que là, non seulement c'est Pâques, mais le 22 avril, c'est le jour de la Terre. Alors, il y a quand même quelques films à thématiques. Documentaire de Anne-Marie Rocher qui est une exploration de divers projets en matière d'aménagement des forêts dans les milieux urbains. Pas la forêt, la CEPAC, mais vraiment les parcs et les petits boisés, puis toutes les, même les arbres qui autour.
Le parc Mont-Royal, genre.
Ouais, mais même genre un campus universitaire, puis des choses comme ça, tout aménagement. Fait que c'est un sujet vaste, un sujet quand même inspirant, mais le film est plus présente quelques réflexions intéressantes, mais c'est pas non plus. Ça va pas au bat pour un enjeu majeur de, tu sais, nécessairement. Ce qu'on comprend,
c'est pas un film de militants.
Non, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des initiatives qui sont déjà là, soit par les villes, soit de bénévolat pour l'entretien, pour replanter. On rappelle qu'il y a eu des erreurs d'urbanisme à l'époque où on mettait tous les mêmes arbres dans les mêmes rues. Ben là, après, quand il arrive une fragilité sur ces arbres-là, le frein, par exemple, ben là, on est en train de toutes les perdre. Fait que là, il y a des quartiers qui n'ont plus aucun arbre. Fait que c'est important d'avoir une mixité. On est beaucoup là-dedans aussi. Comme, ben là, eux, ils n'en parlent pas. Là. C'est moi qui parle plus de le gazon que les gens invitent à laisser pousser puis tout. Fait que c'est un peu ça. Là, tu sais, la canopée, le fun dans les airs, mais ça te prend des arbres de milieu et tout. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup d'affaires quand même dans le documentaire à Montréal. À Laval, il y a un énorme boisé. Fait qu'on voit des initiatives là. Mais ils s'en vont aussi avec des universitaires en Colombie-Britannique, puis une petite partie en Ontario aussi. Fait que un très beau documentaire qui, au final, donne quand même envie de plus s'impliquer quand on est conscient. Moi aussi, qui vis au centre-ville, mais qui aime beaucoup mes parcs, mon aménagement. Je vis près de la rivière Saint-Charles, en basse-ville de Québec. T'sais. Fait que c'est pas très boisé, la rivière, mais ça dépend des secteurs. Là. Fait que ça donne beaucoup envie de s'impliquer là-dedans, puis de dire finalement, je devrais peut-être en faire du bénévolat une journée par année pour aller nettoyer les berges, puis ces choses-là. Tu sais, j'ai vu les flyers, mais je fais pas plus. Là. Fait que c'est pas un film qui milite pour faire ça, mais on dirait que le fait qui de voir ces initiatives-là, exact, ça donne envie de faire plus. Fait que c'est pas un film qui nous tape sa tête ou qui dit que tout va mal ou quoi que ce soit, c'est juste l'importance pour le bien-être social et humain d'avoir des zones forestières est très importante. Puis là, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a plusieurs endroits où on est en train de briser le béton, puis casser l'asphalte, puis réduire pour te dire, en plus pour la chaleur des villes, pour la qualité de l'air, pour tout, fait que c'est comme...
Et ne serait-ce que pour la beauté aussi.
Exact, c'est ça. Et on peut pas juste dire, moi, l'érable à sucre, c'est le plus bel arbre, puis on met juste ça partout, puis le problème est réglé. T'sais, faut que t'ailles une mixité, c'est très important. Puis aussi, faut que t'es entretiennes. Tu peux pas juste planter un arbre puis laisser aller.
Est-ce qu'on sait s'il va y avoir des projections spéciales avec les
J'ai vu qu'il y en a quelques-unes à Montréal, un peu plus, mais suivez, c'est le genre de truc. L'autre film qui a des projections spéciales, c'est peut-être un petit peu plus aride, c'est Le Temps de François Delisle, qui est un genre de un film d'essai ou une fable environnementaliste, si on peut dire. C'est un film qui a d'ailleurs été présenté au FIFA, le film sur l'art, Festival international du film sur l'art. Là. Fait que ça donne quand même un genre là-dedans. Là. C'est beaucoup du documentaire puis du art et essai. On va suivre à peu près, je pense qu'il y a 4 époques différentes. Des personnages qui vont évoluer dans un monde qui est dévasté par le réchauffement planétaire. Fait que ce n'est pas un documentaire, mais c'est vraiment une espèce d'extrapolation de « si on continue comme ça à rien faire, voici qu'est-ce qui pourrait arriver face à la crise climatique puis au réchauffement global ». Fait qu'il y a un personnage en 2021 qui est donc très récent, là, qui est un peu dans la COVID, qui commence à avoir de l'anxiété, de l'éco-anxiété. Elle vient d'avoir un enfant, puis elle file mal par rapport à tout ça. C'est pas un film qui parle de COVID, mais on comprend que c'est à ce moment-là. Il y a un personnage en 2042, un autre en 2088, puis un 2100 quelque chose. Ce qui est aussi la particularité du film, parce qu'à date, ça pourrait être n'importe quel truc, c'est que c'est un genre de photoroman, photojournal. Ça? En tout cas, photoroman. Ouais. Fait que c'est juste des clichés. C'est des photos jouées par des comédiens et comédiennes avec des narrations par-dessus qui racontent un peu, c'est donc leur journal, ça c'est ce qui m'est arrivé, puis là je savais pas où aller, puis là j'ai décidé qu'il faut ça. Fait qu'il y a elle qui fait de l'éco-anxiété qui va finir par rentrer dans des mouvements militants plus extrêmes pour dire faut bouleverser, faut bloquer des autoroutes, des choses comme ça. T'as la personne qui est un peu plus tard, qui travaille pour le gouvernement, qui fait le contrôle, t'as ceux qui vivent à l'extérieur des villes, parce qu'il arrive éventuellement, c'est que les villes, c'est un petit peu Walking Dead, là. Les villes se referment puis disent « on va s'occuper de votre contrôle, votre bien-être, tous ceux qui sont en dehors, ben, risquent de mourir, etc. » Puis t'en as une jouée par Rosemary Perrault, elle, qui est vraiment plus dans le futur, 2100, qui était une ancienne militaire qui est devenue plus libre là, à se trouver avec des sociétés qui vivent en marge puis qui essaient d'avoir des meilleures valeurs et tout. À une époque où même un peu à la Children of Men, là, il a rendu... Mm. Les gens ont beaucoup de incapables d'avoir des enfants.
Ouais, j'ai oublié,
infertilité, c'est ça. Voilà, fait que c'est quelque chose de très singulier. C'est pas comme pour tout le monde, mais c'est quand même d'une extrêmement bonne qualité. Mm-hmm. C'est vraiment un film de cinéma. Même si c'est des photos, c'est une très belle mise en scène, des très belles photos. Puis le traitement sonore est quand même excellent, disons, avec le film, de l'ambiance, tout ce qu'il crée et tout. Fait que c'est fascinant de nous faire ressentir autant avec des photos. Fait que oui, il y a un médium visuel, mais c'est pas de l'image filmée. Et que ça rappelle que l'effet sensoriel du son et tout est vraiment important dans un cinéma.
Donc, c'est vraiment pour vivre une expérience différente.
Ouais, quand même, c'est ça. Et qui est quand même aride parce que c'est pas Jojo du tout. Ouais, on n'est pas dans le documentaire demain en disant « Ah, voici des belles idées qui
on n'est pas
nous
avec Wally.
Non, c'est ça. Fait que c'est pour nous rappeler, c'est un peu quand même pour... ça c'est mon my two cents, là, t'es tapé sur le clou de il faut agir parce que ça va pas bien, puis voici un scénario catastrophe, mm-hmm. qui est peut-être plus plausible que scénario catastrophe à la Sant Andreas ou 2012, là, justement. Fait qu'il n'y a pas de Rock qui vient nous sauver dans celle-là. Fait que voilà pour le temps, puis il y a plusieurs projections avec François Delisle. En fait, le 21 avril, donc la veille du jour de la Terre, le lundi de Pâques, il y a plusieurs cinémas qui participent en même temps à une diffusion du film, puis un question-réponse, un Q&A.
À distance,
comme il y avait eu avec le gala Sprint qu'on avait parlé là, avant le gala Québec Cinéma. Là. Fait que vous pouvez texter vos questions puis en direct, puis ça va être avec François Delisle, puis un intervenant de Équiterre, là, justement, qui discute de l'urgence climatique. Dans les autres sorties que là, on n'a pas vues, à moins que tu m'apprennes que tu les as vues en cachette, la comédie française « Ici et là-bas », qui joue sur le code inversé, c'est-à-dire que c'est un blanc qui est marié depuis 15 ans avec sa compagne noire au Sénégal, mais là il y a un problème de visa, il se fait expulser et il va aller héberger à Paris chez le cousin de sa
femme.
Donc c'est le blanc qui se prend pour un noir, un Sénégalais, et le noir qui est très parisien et tout, fait qu'on joue avec cette dualité-là avec ses codes dans cette comédie légère « Ici et là-bas ». Et la comédie romantique « The Wedding Banquet », qui serait un peu le banquet de mariage, qui est disponible seulement en anglais, par contre, au cinéma. C'est pour ça qu'on l'a pas couvert. On le laisse plus légèrement. C'est un remake d'un film de Ang Lee, et cette fois-ci par Andrew Han. C'est un jeune Coréen qui va être appelé à reprendre l'entreprise familiale. C'est un artiste gay qui n'a pas sa carte verte, qui vit à Seattle. Puis ne voulant pas... Je pense que son chum ne veut pas se marier avec lui. Fait que pour faire ça, il va se marier avec sa coloc, qui elle aussi est lesbienne, pour avoir des papiers. Mais sa grand-mère va se rendre compte que c'est une supercherie. Fait qu'elle va un peu les challenger là-dedans. Fait que comédie romantique,
comédie de
situation. De voilà.
Avec Bowen Yang, quand même. Faut souligner, peut-être pour les amateurs, le Saturday Night Live. Mm-hmm. C'est comme une des grosses vedettes là, de cette nouvelle mouture-là. Il est là depuis quelques années. Alors, on voit de plus en plus, quand même, quelqu'un de très drôle. Là, pour avoir vu des extraits de Saturday Night Live, mais aussi en entrevue, puis tout ça, là, c'est quelqu'un qui a un humour assez mordant, qui n'a pas peur de rien. Puis il y a Lily Gladstone aussi.
Exactement, qu'on n'a pas revu.
Non, c'est ça. Donc,
fait que c'est un film de 93 de Ang Lee qu'on reprend. Et aussi au générique, j'ai oublié son nom, mais je pense que c'est Yoon Yo Jung qui joue la grand-mère, et elle a été oscarisée, elle, pour Minari.
Ah, OK.
C'était la grand-mère qui commençait à faire un peu de démence. Et
pour boucler la boucle avec Star Wars, il y a aussi Kelly Marie Tran, qui était dans les deux derniers Star Wars, qui jouait Rose, le personnage ami.
Avec Finn.
Avec Finn, ouais. OK. La mal-aimée des trolls des réseaux sociaux, malheureusement.
Ouais, ben malheureusement, sa quête était moins excitante un peu. Ouais. Mais
bref, elle voilà. a eu beaucoup de backlash.
Très sympathique. C'est, je sais pas pourquoi... ça doit être une question de target. Des fois, je veux pas les jeter sous le bus. C'est VVS qui distribue ça. Puis, des fois, ils ont comme... On dirait leur copie française est prête, mais ils la font juste pour la sortie numérique ultérieurement. Mmh. Puis pour le cinéma, ils sortent juste l'anglais. Ils avaient fait pareil avec Hitman, puis... The Woman of the Hour, qui finalement était des productions Netflix, mais ils faisaient quand même la sortie canadienne, mais ils sortaient pas la version française. Puis je sais, nous-mêmes, on aime mieux les versions originales et tout, mais ça dit quand même beaucoup sur la portée d'un film et ouais. le nombre d'écrans en fait qu'il va avoir. Il y a plusieurs marchés en région qui n'ouvrent pas les versions anglaises, ils ouvrent juste les versions françaises. Fait que c'est pour ça que ça va être plus limité pour The Wedding Banquet, qui les critiques sont très, très bien, là, très sympathiques, cette comédie. Fait que bref, je pense que c'est assez pour cette semaine. Je pense qu'on a passé l'heure et on essaie de faire moins d'une heure. Aïe, aïe, aïe. La semaine prochaine, il y a encore beaucoup de sorties. Oui, je sais pas si on est capable de tout voir. En plus, c'est comme un week-end pascal férié. On va peut-être manquer une journée de visionnement dans tout ça. La déferlante des films d'action continue, The Accountant 2. Toi, faut que tu révises le premier.
Moi, que j'ai jamais mais vu, mais...
Je pense que ça nous présente le personnage de Ben Affleck, mais sinon, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. On a l'air de mettre beaucoup de bromance avec son frère joué par John Bernthal. Puis dans mon souvenir, on le voit même pas dans le premier film. Cronenberg revient, il est toujours là. The Shrouds, et peut-être, je sais pas si on va être capable de le voir, The Legend of Ochi, qui pique ma curiosité, qui a l'air d'un très bon film, très sympathique.
Ça rappelle la belle époque des Jim Henson, Labyrinthe et
puis du Amblin, puis ces affaires-là. Mais encore là aussi, seulement une version anglaise. Fait que c'est pour ça que je sais pas ça va être quoi l'ampleur de la sortie, puis si on va avoir accès au film. Mais, sinon, il y aura bien d'autres choses qu'on va
voir.
Un
que j'ai déjà vu, moi, c'est Sarah Bernhardt qui prend la fiche.
Oui, la divine.
Avec Sandrine Kiberlin, j'ai bien hâte de vous en jaser.
D'accord. Alors, ça, la semaine prochaine, pour les sorties du 25 avril, pour nous contacter, écrivez-nous par courriel balado@monciné.ca et suivez Magazine Monciné sur Facebook et Instagram. Et s'il vous plaît, on le dit, likez, commentez, aimez-nous. Et aussi, j'espère que la semaine prochaine, mon genre complètement fini mon rhume puis retrouver ma voix naturelle.
Pas des allergies printanières?
Non, je pense. En fait, je pense que j'avais une bronchite.
Ooh.
Mais ça s'en va. Puis non, mes allergies sont au mois d'août. Fait que là, au moins, je vais être correct, mais juin, juillet, normalement, ça va. Bref, procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Et pour consulter le magazine et les deux articles qui s'en viennent de tes récentes entrevues, visitez le monciné.ca.
Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, bon coco de Pâques.
Oui, bonne chasse au coco.
Et si jamais on vous invite à une soirée de blues, apportez-vous donc de l'ail et de l'eau bénite. Qui sait, ça pourrait vous être utile.
Ouais, des petits cornichons à l'ail là, avec du blues. Là, ça va bien.